fils de Lucien. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et vous savez quoi? Cinéma.
La 30e édition du Festival international du film de Vébron. C'est en direct sur les ondes de Radio Bartas et de 48FM. Pour le cinéma, pour l'art.
Merveilleux le cinéma. Attention!
Et bonjour à tous et bonjour à toutes auditeurs de Radio Bartas et de 48FM et bienvenue à ce plateau tenu en direct de l'ouverture, en tout cas du premier jour de l'édition, de la 30e édition du Festival International du Cinéma de Vébron. On est là, on est sous les tentes, il se passe plein de trucs, il y a des gens qui font des gens qui boivent des coups, il y a des gens qui mettent en place des trucs, il y a des gens qui boivent des coups aussi, c'est bien. Et je ne suis pas tout seul pour animer ce plateau, bien évidemment, puisque je suis avec Ludo de 48FM. Salut Ludo.
Salut, comment tu vas?
Mais ça va bien, et toi, comment vas-tu?
Eh bien écoute, ça va bien, je suis avec Julia, tout va bien, salut Julia.
Salut Julia.
Salut.
Salut. Alors du coup, on va avoir plein de choses à voir en une heure, on a plein de choses à voir. On sera tout à l'heure avec Valérie Théodore et Sonia Joubert, réalisatrice pour la première, comédienne pour la deuxième. Et en troisième partie, on sera avec le reste des membres du jury, justement Jean-Claude Langot, Lionel Astier et Frédéric Bourali, si je dis pas de bêtises. Mais on va d'abord commencer, puisque nous sommes un petit peu, j'ai envie de dire, avec les deux têtes pensantes, les deux têtes d'affiche du festival, mine de rien. D'abord Alain Argilier, bonjour Alain.
Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Bonjour Alain Argilier, maire de Vébron, là où nous nous trouvons, et Michel Benoît, président du festival. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bonjour. Tout va bien, ça va? C'est la première journée, c'est bon, c'est encore le repos là pour l'instant, ou c'est le...
C'est le repos, oui et non, puisque effectivement c'est la première journée, mais hier soir on a fêté un petit peu déjà les 30 ans avec toute l'équipe, donc on commence le festival un petit peu fatigué, mais on est super motivé et j'espère que tout va bien se passer.
C'est bien de commencer un festival un petit peu fatigué, c'est une bonne idée, c'est une bonne technique je pense, à mon avis, mine de rien. Mais vous l'avez dit et vous l'avez justement souligné, c'est les 30 ans du festival, enfin ça fait 30 ans que ce festival existe, mine de rien, c'est pas rien, hein, simplement c'est une édition quand même un petit peu spéciale. Et du coup la première question que j'avais envie de vous poser, mine de rien, c'est quand on se retourne sur 30 ans de festival, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on apprend en fait en 30 ans, disons ça fait 30 ans qu'on tient à ce festival de cinéma ici?
Belle question.
On voit
beaucoup de choses. Effectivement, 30 ans, il y a quand même un passé certain. Moi, je vois des tas de visages qui me reviennent comme ça en tête. Je vois des gens extraordinaires qui nous ont fait l'honneur de venir là. Et puis, je vois surtout une équipe de bénévoles qui travaille sans arrêt depuis 30 ans, hiver comme été, parce que le festival, ça se prépare sur l'année. Hein. Donc, je vois surtout cette équipe de bénévoles qui est là et qui est motivée.
Tu disais des visages, oui, c'est des rencontres. Et en parlant de bénévoles, c'est également un vecteur social important pour une commune rurale un peu isolée comme celle qu'est Vébron.
Effectivement, mais c'est vrai que le festival a soudé beaucoup de personnes sur le village et puis a créé tout un réseau de contacts, alors entre nous les bénévoles, mais aussi avec les artistes qui nous honorent chaque année, quoi.
Alors c'est vrai qu'on le répétera jamais assez, merci aux 40 bénévoles qui rendent ce festival possible. Michel, peut-être sur les 30 ans, quelque chose, pas une fatigue on va dire simplement, mais juste toujours le même plaisir de faire venir le cinéma en Lozère?
Non, il n'y a pas de fatigue, nous on fait ça parce qu'on aime le cinéma Voilà, ça va aller mieux,
ça va
aller
mieux
avec ce micro. Voilà, on aime le cinéma, on aime les gens et on aime faire vivre le village, le pays, les Cévennes, la Lozère, et ça depuis 30 ans. Et effectivement, les bénévoles, vous les voyez encore travailler pour les animations du soir, travailler toute la journée pour les projections, etc., etc.
Alors, c'est vrai que les bénévoles, je reprends la parole, parce que dans 30 ans, il y a eu quand même un turnover. Michel fait partie des membres fondateurs avec un petit noyau, mais on a vu passer beaucoup de gens. Et puis, je trouve que les bénévoles actuels sont jeunes et motivés. Et donc, ça laisse préjuger qu'il va y avoir encore beaucoup de festivals derrière, quoi.
Oui, la 30e, en fait, c'est juste une sorte plus ou moins de maturité, en fait. La 30e, c'est les débuts.
J'espère.
Je voulais revenir juste sur quelque chose, puisque vous mettez énormément en avant, notamment vous, Michel, dans le petit édito du programme, en fait,
oui,
le fait que ça soit un événement solidaire et que vous vous battez, en fait, simplement pour la gratuité du festival, que ça soit un festival ouvert à tous et possible, en fait, simplement pour tous, pour amener la culture. Vous mettez aussi en avant que c'est de plus en plus dur. Comment ça s'est passé, en fait, cette année pour la 30e édition? Est-ce que c'est un problème, justement, de tout faire gratuit?
Y a la gratuité et puis il y a la... c'est dur parce que les bénévoles, maintenant, ça court pas les rues. Il faut les motiver. Il faut les tenir en haleine toute l'année pour qu'ils puissent travailler et monter ce festival qui, depuis 30 ans, il perdure. Après, je dis un festival solidaire. Oui, c'est vrai, c'est un festival où toutes les projections et les stages, les animations, les expositions, tout est gratuit à Vébron sur le festival. Et c'est gratuit depuis 30 ans. Donc, effectivement, on a besoin d'argent, on a besoin de gens qui viennent visiter, on a besoin de gens qui consomment, et pour que le festival perdure. Mais bon, 30 ans, je pense que déjà sur la Lozère, c'est la plus ancienne manifestation culturelle du département. Donc on a fait nos preuves et vu le monde qu'on a eu les premiers jours, les retours sur les sites, sur Internet, etc., les réseaux sociaux, bon, je pense que la semaine s'annonce très chargée.
Je pensais justement voilà, on parlait des bénévoles. Dans un festival comme celui-là, donc, qui est consacré au cinéma, mais il n'y a pas que du cinéma. Qu'est-ce qu'on peut faire si moi l'année prochaine je vais être bénévole pour chez vous? Qu'est-ce que je peux faire? À partir de quel moment je peux m'investir?
Bénévole, il y a le bénévole qui travaille toute l'année, il y a le bureau, le bénévole qui fait partie du bureau, et puis il y a le bénévole qui vient une semaine avant le début du festival pour aider à monter des chapiteaux, pour monter des expositions, pour monter la salle de projection, pour tenir passer les commandes, etc. Quoi, il y a toute une organisation, c'est toute une ville, c'est une entreprise quoi qui bouge. Il y a de la restauration, il y a absolument de tout. Il y a des gens qui vont transporter les personnes, aller chercher les gens à la gare, etc., etc.
Alors, nous a rejoint en plateau, Lionel Astier, président du jury et notamment pour ce festival. Lionel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je vais pas du tout griller mes questions de tout à l'heure parce que ça serait un petit peu trop facile, mais peut-être vous justement d'être là à la 30e édition, si j'ai bien compris, vous êtes aussi un habitué de ce festival-là, de retrouver ce festival-là. On sait l'attachement que vous avez à la Lozère. C'est toujours le même plaisir de venir ici.
Ah non. Je suis pas un habitué du festival. C'est ma première année. Et non, je suis très honoré d'être là, oui, je suis très honoré. Et puis pour enfoncer le clou avec les bénévoles, je pense que sans les bénévoles, rien n'est possible.
Alors, si
je crois qu'il faut être simple. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a rien.
Je crois que vous l'avez très bien fait comprendre. Parce qu'on m'a dit, j'ai entendu une rumeur que hier, c'était, vous avez offert le restaurant aux 40 bénévoles parce que ça fait plaisir.
Je ne me rappelle plus s'ils étaient 500, non?
Mais oui, sans les bénévoles.
Ouais. C'est-à-dire que, en fait, tous les gens qui sont là et qui vont arriver aujourd'hui sont invités. Les seuls qui ne sont pas invités, ce sont ceux qui font le festival. Non, moi, j'ai voulu les inviter, voilà.
On n'a pas besoin d'eux, de toute façon, vous avez raison. Mais alors, il y a une chose peut-être sur laquelle je voulais poser les questions, puisque moi, mon premier festival, c'était l'année dernière. Vous aviez énormément mis en avant, et je l'ai senti au cours des soirées du festival, que ce qui était... important, c'était les rencontres vraiment entre les habitants, les festivaliers, ceux qui viennent ici, et les professionnels du cinéma. Qu'en fait, au-delà du fait que de ne pas avoir de séparation, là, il y avait les mêmes retrouvailles, notamment autour des bars. Comment vous définiriez-vous vraiment le Festival de Vébron entre ces relations-là, habitants, festivaliers, professionnels?
Ben, ça se fait tout à fait naturellement, hein, ces relations. En fait, les gens, quand ils voient un petit peu les artistes qui sont là, ils ont envie de venir leur parler. Quand ils voient qu'on installe des choses, ils arrivent, ils nous aident. Donc ça se fait naturellement et c'est ça qui est magique dans ce festival. C'est que tout le monde met la main à la pâte et que ça fait vivre le village pendant une semaine. Ça lui donne vraiment une autre dimension parce que si vous venez à Vébron le 15 janvier, vous verrez que c'est un autre village quand même. Donc... je crois que c'est un moment fort de l'année quand même. Le festival soude pas mal de liens.
Lionel Astier, pour revenir à vous, vous avez été déjà président de jury de festival de court-métrage, ou c'est la première fois?
Non, je crois que c'est la deuxième fois. Sinon, j'ai participé à pas mal de jurys, oui, entre autres à Trouville, à Honfleur, enfin voilà. À Honfleur, j'étais président du jury, oui, ouais, moi j'adore ça, moi.
D'accord, on va pas rentrer dans les courts-métrages parce que c'est les questions d'après.
Ça va venir après, ne me grille pas mes questions. Voilà.
Vous êtes ambassadeur de Lozère également. Cette année, vous êtes président du festival. Vous avez un lien fort avec ce territoire, finalement.
Oui, c'est vrai que d'abord, j'aime la Lozère, je ne le cache pas, et puis je suis d'ici. C'est-à-dire que toute ma famille est issue de Lozère, que ce soit du côté maternel, c'est-à-dire assez proche d'ici, du côté de la Salle Prunet, Florac, Saint-Julien-d'Arpan, Les Chazes, Et du côté paternel, c'est les Gévaudan du Nord, c'est-à-dire Châteauneuf de Randon, Chauderac, Luc en Lozère. Depuis 1600, hein, s'il vous plaît. Hein.
Au moment de la bête ? Non, bien
Comment
après. Au moment de la bête ? Non, bien après.
Bien, c'était quelle c'était...
Je ne sais pas, c'est pour ça que
c'était bien avant la bête.
C'était bien avant la bête.
Ah, oui,
vous étiez avant la bête. C'est important de donner de votre personne pour ce territoire qui, on le voit au niveau national, est quand même un peu délaissé.
C'est important.
Ou c'est naturel ?
C'est naturel, oui. Moi, j'aime être ici, voilà, vraiment.
Moi, j'aimerais bien vous poser la question, du coup, à tous les trois. En fait, pour vous, c'est quoi la relation Lozère-cinéma ? Parce qu'on sait qu'il y a plein de réalisateurs qui viennent ici pour les paysages, notamment, et pour les lieux de tournage. Pour vous, c'est quoi, en fait, simplement, la relation entre la Lozère et le cinéma ? Qui veut répondre en premier ?
Je pense que la Lozère est une terre de cinéma par excellence, parce que c'est un territoire qui a accueilli déjà beaucoup de tournages et des grands tournages. Il y a eu des films comme, je pense, La rivière du Hibou, qui a eu la Palme d'Or du court-métrage à Cannes dans les années 60. Il y a eu des grands films comme 37-2 qui ont marqué l'histoire du cinéma. Il y a eu Scout toujours, il y a eu Les Camisards. On peut en passer, il y en a peut-être une cinquantaine. Donc c'est vraiment une terre de cinéma. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il y a des paysages exceptionnels. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a un environnement... on retrouve, c'est simple de tourner en Lozère. Les démarches administratives sont plus simples, les gens sont plus accessibles. C'est beaucoup moins difficile ici que sur des territoires urbains où ça demande beaucoup plus de temps, d'administration, etc.
Suite Michel ou Lionel, peut-être, éventuellement. Oui, d'accord.
Okay, super. Vous êtes ensemble, c'est ça.
Peut-être, ou à moins que Lionel, vous ayez peut-être une idée sur la relation entre Lozère et cinéma.
Non, mais je crois qu'Alain a raison. C'est vrai qu'il y a des paysages. Par exemple, là, moi, tout à l'heure, j'ai pris une heure pour monter là vers Nîmes-le-Vieux.
Tout à fait, magnifique, voilà. Paysage monolithique.
Et je fais pas ça partout. Enfin, je veux dire, là, je prends toujours un moment pour aller simplement poser mon regard là-haut. C'est exceptionnel, les paysages sont exceptionnels.
Mais au niveau du festival, on l'a remarqué aussi, puisque par le passé, des réalisateurs qui sont venus présenter des films ici, certains sont venus après tourner leur court-métrage. Donc on voit qu'il y a quand même une envie de venir sur ce territoire faire du cinéma.
Je reviens juste sur l'idée où vous disiez je vais voir simplement ces paysages. Est-ce que ça vous fait travailler en fait simplement peut-être des idées d'écriture, des idées de mise en scène, des idées de réalisation, ou non, c'est pas boulot, c'est juste pour moi?
Les deux, c'est-à-dire que, disons que, en ce moment, il y a un spectacle que vous connaissez qui tourne et je suis en train d'écrire d'en écrire un deuxième. Il se passe en plein air, il se passe dans la forêt, il se passe dans des endroits sauvages qui n'ont jamais accueilli de théâtre. Donc oui, sans doute que ça m'a inspiré. Oui, c'est vrai que c'est un spectacle. Même quand on parlait, Alain parlait des Camisards. Quand on lit un peu l'histoire des Camisards et qu'on voit ce paysage, il y a quelque chose. Par moment, c'est biblique là-haut quand même. Il y a des choses, il y a des lumières, il y a des canyons, il y a des plateaux. Enfin bon, c'est très. Voilà, ça parle tout seul, quoi. Je veux dire, je comprends que. On y revienne et on a envie de le filmer. C'est du western, il y a tout, quoi.
Petite précision, le spectacle La Nuit des Camisards, du coup, qui s'est déjà joué l'année dernière,
oui.
Partout dans la Lozère.
Qui vient à Mende, d'ailleurs.
Et qui vient à Mende dans pas longtemps.
Oui.
Absolument. C'est bon pour moi.
C'est bon pour toi, tout à fait. Peut-être la petite dernière question, puisqu'on a, comme on le disait, le maire de Bébron et le président du festival. La prog de cette année, dans quoi elle se dirige ? Qu'est-ce qu'il faut absolument pas louper ? Parce que ça serait quand même dommage de le louper. Et oui, et auditeurs, auditrices, tout le monde fait la même tête quand on pose cette question, c'est-à-dire lève les sourcils, se pince la bouche en faisant « Ouh, il y a plein de trucs. »
Et répond tout. Tout.
Voilà, il faut rien louper, effectivement. Je sais pas, je pense qu'il y a des moments forts, effectivement. Moi, je vois par exemple les soirées d'ouverture, de clôture, ça c'est des moments forts puisqu'on présente à l'ouverture les membres du jury qui seront là pendant la semaine et qui vont juger les 40 films qui seront en sélection. Il y a la clôture avec le palmarès et puis il y a des moments forts comme cette année une thématique sur l'agropastoralisme puisqu'on est un territoire inscrit quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça il faut le souligner. Donc tous les territoires en France n'ont pas cette chance là. Donc un moment fort sur l'agropastoralisme et puis quelques coups de cœur avec je pense au documentaire sur les Camisards qui est commenté narré par Lionel, je pense au portrait de Bernadette qui sera présenté samedi soir, Bernadette Lafont qui est un petit peu c'était la dame qui a fait ce festival, c'était l'actrice de Sevenol qui qui nous a aidés, qui nous a ouvert des portes, qui nous a tout permis. C'est ça, c'est formidable. On doit beaucoup à cette grande actrice. Et puis, je pense aussi à une soirée un peu plus sympa, un peu plus rigolote, un petit peu plus dans la comédie, avec « Il a déjà tes yeux » d'un ami qui est venu ici aussi plusieurs fois, Lucien Jean-Baptiste.
Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Michel et Alain d'avoir été avec nous en ce début de festival. On vous retrouvera sûrement à la clôture, ça sera très rigolo de comparer vos voix, la fatigue et, justement l'avant-festival, l'après-festival, ça sera très marrant. Et Lionel, on vous retrouve tout à l'heure avec le reste des membres du jury. En attendant, on se fait une toute petite pause musicale parce qu'il n'y a pas que du cinéma à Vébron, il y a aussi de la musique avec un groupe qui jouera demain, le Projet Chinéar. Là, on va s'écouter le morceau 7 et on revient juste après avec Sonia Joubert et Valérie Théodore en plateau. À tout de suite. Feliyan feliyan do keiyan ta bariyo de sela do keiyan te diyan feliyan do kuvande siyan feliyan do keiyan ta.
Avec le micro, c'est pas ça.
Nous sommes de retour en direct de la 30e édition du festival international, j'adore préciser international, du film de Vébron. Et nous ont rejoint du coup en plateau Valérie Théodore, bonjour.
Bonjour.
Et Sonia Joubert, bonjour.
Bonjour.
Alors, respectivement, toutes les deux comédiennes, notamment vous Valérie aussi, réalisatrice.
Voilà, à la base j'étais comédienne.
Tout oui. À fait. Et puis la réalisation, on s'est dit c'est pas mal aussi d'être derrière la caméra, c'est sympa.
Enfin oui, même plus que ça, c'était vraiment mon désir depuis peut-être 10 ans. Enfin, je voulais absolument réaliser et... Voilà, et j'ai réalisé 2 courts-métrages.
Alors tout à fait, justement, je voulais en parler des 2 courts-métrages. En 2011, Je vous prie de sortir, qui a été sélectionné dans un nombre incalculable et incroyable de festivals. Si je les listais tous, on en aurait jusqu'à 18h30.
Est-ce qu'il a été à Vébron?
Et a-t-il été à Vébron?
Eh bien non, il n'a pas été à Vébron. J'espère qu'il avait été envoyé, mais ouais, non, j'ai pas eu la chance qu'il soit présenté ici.
Il n'est peut-être pas passé, hein.
Il n'a peut-être pas été envoyé, justement j'ai un petit doute.
Alors il n'a pas reçu le premier prix de Vébron, il a reçu le premier prix de Cleveland. Oui. Cleveland, Vébron, même c'est combat.
Et j'ai eu la chance d'y aller en plus, alors c'était assez formidable.
Et oui. En 2016, vous êtes revenu justement avec La Politesse des Anges, nouveau court-métrage.
Oui.
Ce que je voulais vous demander, peut-être justement, puisque vous êtes là aujourd'hui à Vébron, pour la première fois, hein, c'est bien ça.
Pour la première fois, tout à fait, oui.
Quand on a fait un nombre incalculable de festivals comme ça, qu'on est allé à droite, à gauche, qu'on a vu peut-être des ambiances différentes, est-ce qu'on commence à prendre une habitude de ce genre de festival, ou est-ce que c'est toujours différent, c'est toujours des nouvelles découvertes?
Non, c'est toujours différent et c'est toujours... très très émouvant parce qu'en fait on travaille beaucoup pour faire un court métrage, c'est plusieurs années de gestation et de présenter son film à un public, enfin en tout cas pour mon cas c'est vraiment extrêmement émouvant et du coup moi j'ai été dans plusieurs pays et effectivement moi j'avais toujours vraiment la même émotion et l'échange avec les gens et tout ça à l'issue des représentations c'est vraiment le cadeau quoi. C'est... Ouais.
Pourquoi le court métrage?
En fait le court métrage c'est un petit peu le stade premier avant de pouvoir passer un jour j'espère au long métrage en fait, parce que moi j'étais comédienne donc j'avais envie de réaliser. Et du coup, c'est vraiment là, je pense, où on apprend les choses. Il y a tellement à apprendre quand on veut faire un film. Et voilà, et puis j'avais cette première histoire que je voulais absolument raconter. Et voilà, et on apprend. Et j'ai appris aussi beaucoup sur mon deuxième film. Et je pense que c'est très important de faire des courts-métrages avant de passer au long. Après, il y a des gens qui passent au long-métrage hein, directement, des comédiens, voilà, j'en connais. Mais chapeau, parce que ouais, c'est un nouveau métier vraiment par rapport à celui de comédien.
Vous disiez que c'est, si je reviens justement sur les différents festivals, vous disiez que c'est différent par rapport à l'ambiance, mais c'est aussi différent en fait par rapport au public. Il y a des publics différents qui attendent des choses différentes en fait, simplement quand on présente son travail.
Oui, c'est vrai, il y a des, c'est des ambiances très différentes. Moi j'ai eu de la chance, je suis partie plusieurs fois aux États-Unis. Je suis allée au festival donc, de Cleveland, à Indianapolis, au festival de la Nouvelle-Orléans, à Barcelone. Enfin voilà, donc effectivement, c'est pas du tout les mêmes échanges. Voilà, et. C'est pour ça que ça fait très très plaisir de se déplacer beaucoup et d'aller vraiment dans différents pays présenter son film parce que c'est toujours des rencontres. Surtout, c'est ça qui fait très très plaisir, quoi. C'est les échanges avec tous les spectateurs et tout ça.
Alors, je voulais venir justement un petit peu sur votre cinéma puisque dans les deux courts-métrages que j'ai vus de manière complètement légale sur Internet, dans les deux courts-métrages, pour moi, on retrouve un petit peu l'importance en fait d'une relation entre. J'ai pas envie de dire une jeune ingénue, mais c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Mmh. Une jeune personne, on va dire plutôt, et un autre être un petit peu fragilisé, mmh. un petit peu détruit par la vie. Est-ce que ça, c'est les relations humaines simplement qui sont pas des relations bateaux, en fait, qui sont pas des relations qu'on a tous les jours. Une relation humaine un petit peu incongrue, c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie de parler, ou est-ce que je me trompe complètement?
Non, vous avez tout à fait raison. Mes deux films, en fait, je pense qu'ils sont très similaires finalement, alors que c'est deux histoires complètement différentes. Mais il y a quelque chose, effectivement, de récurrent entre les deux. Et en fait, c'est vrai qu'on fait un film sur des choses qui vous touchent très, très profondément. Après, on n'a pas toujours l'explication de ce pourquoi ça vous touche autant. Mais moi, c'était vraiment justement la relation qui se noue entre deux personnages et ce personnage qui retrouve une sensation d'exister, que ce soit ce SDF dont je vous prie de sortir ou cet homme âgé dans La politesse des anges. Voilà, et tout ça avec le minimum de mots, parce que vous avez vu, c'est pas des films très dialogués. Et voilà, et c'est ces relations humaines qui sont un peu inexplicables et qui peuvent se nouer parfois, où il y a des choses très intimes entre deux personnes qui se connaissent pas forcément. Et voilà, et grâce à ça, il y a un sursaut, il y a un rebond, il y a quelque chose qui se remet en place chez des personnes qui sont un peu hors de la vie, quoi.
Alors là, on parlait justement des personnes qui sont hors de la vie, mais il y a l'autre aussi justement dans le duo, et il y a toujours cette idée de vision du monde qui change en fait un petit peu après cette rencontre. C'est plus pareil, c'est une avancée en fait justement, et toujours avec ce personnage-là qui découvre en fait simplement ça, qui s'attendait pas à ce genre de choses.
Le personnage de la jeune femme. Qui est joué en plus par ma sœur dans les deux films. Ouais.
Et ça justement de ce changement de monde, c'est très important dans votre cinéma à vous. Peut-être est-ce que c'est une importance du cinéma de pouvoir voir les choses autrement.
Oui, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un parcours qui se fait pour les deux personnages. Donc justement retrouver cette sensation d'exister pour mes deux personnages masculins. Effectivement, pour la jeune femme, il y a un parcours et effectivement elle ressort différente. Voilà, il y a des enjeux, il y a une ouverture, il y a quelque chose auquel elle est initiée, que ce soit dans l'une ou l'autre histoire. Et oui, il y a un chemin interne qui est important, quoi, pour les deux personnages en tout cas. Ouais.
Vous écrivez les scénarios, c'est également vous?
Oui, c'est moi qui les écris.
Vous faites tout?
Oui.
C'est important pour vous justement de faire tout pour arriver à l'objectif que vous êtes fixé à la base, au résultat donné?
Alors pour moi, c'est très important. C'est pour ça que je pense que j'aurais du mal à réaliser un scénario que j'ai pas écrit. Enfin, à part si j'ai vraiment un coup de foudre sur quelque chose. Mais en fait, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est des histoires qui intimement, en fait, il faut les raconter à tout prix. Moi, je me suis beaucoup bagarrée pour faire mes deux films. Hein. Ça n'a pas été simple, malgré même le parcours du premier et tout ça. Enfin, le deuxième a été compliqué à faire aussi. Et finalement, vous écrivez une histoire et... il faut à tout prix la tourner, quoi.
Une dernière question, on passait peut-être à Sonia. Vous venez de parler de difficultés pour faire des courts-métrages. Pour des courts-métrages aussi, il y a des difficultés pour réussir, oui.
Ouh là là, c'est très très long et c'est très difficile. Enfin difficile, c'est-à-dire... quand vous voulez passer par le chemin un peu officiel, c'est-à-dire trouver une boîte de production. Alors moi, la première fois, quand j'avais trouvé une boîte de production, je me disais, ça y est, c'est génial, je vais faire mon film. En fait, pas du tout. C'est le début de la recherche de financement. Donc ça, c'est très très long. Ça peut prendre un an et demi. Enfin voilà, c'est quelque chose de très très long. Et en fait, moi, pour faire mon premier film, et j'ai mis 3 ans. Et pour faire le deuxième, j'ai mis 3 ans.
D'accord.
Enfin, c'est-à-dire entre l'écriture, la recherche de production... les financements, le tournage et la post-prod.
Et à quand Sonia Joubert dans 3 ans dans votre prochain court-métrage? Mais dans 3 ans.
C'est voilà. Pas gentil de mettre des pièges comme ça, mon Dieu, c'est terrible. Mais merci, les coulisses en tout cas, c'est toujours très intéressant parce qu'on ne se rend pas compte, et notamment les coulisses de vraiment ce que c'est. Hein, je veux dire, c'est, le...
bah, c'est sûr que en fait, les gens qui sont extérieurs à ce milieu-là vous disent alors qu'est-ce que tu fais, ton film? Et puis un an après, on les revoit, qu'est-ce que tu fais, ton film? Et 2 ans après, qu'est-ce que tu fais, ton film? Et ils disent encore? Mais t'es encore sur ton film? Mais comment ça se fait que c'est si long? Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un temps plus court quand c'est du court-métrage. Et évidemment, c'est plus lent encore le long-métrage, bien sûr. Mais le court-métrage, c'est quand même un processus assez lent de financement. Après, il y a des films qui peuvent se monter financièrement assez vite. Mais il y a toujours un an au moins avant de pouvoir tourner. Parce que c'est cher, le cinéma.
Je voulais me tourner vers Sonia Joubert qui nous accompagne justement aussi lors de ce plateau. Première fois à Vébron hein, aussi, je dis pas de bêtises.
Oui, c'est la première fois.
Alors, Sonia Joubert est quelque chose de très intéressant. Alors, comédienne, pas encore réalisatrice, on sait pas, peut-être. Hein,
si, réalisatrice, si. Oui.
Pardon, je prépare très mal mes interviews.
J'ai pas voulu te le dire, mais c'est ce qui me semblait.
Mais en fait, je voulais passer sur autre chose. C'est
j'ai
quelque
réalisé
chose qui...
un premier court-métrage dont je suis très très fière, qui s'appelle Soleil. Voilà, qui a fait aussi pas mal de festivals, qui a reçu 3 prix, qui a été fait en autoproduction du coup, donc avec 2 000 euros, donc très très petit budget. Et là, j'en prépare un deuxième du coup qui rentre dans un système de financement, donc ça va être plus long, comme en parle très bien Valérie. C'est un système qui est différent.
Alors justement, on disait avec Valérie que du coup, hein, le cinéma est cher. Comment on fait pour tourner un film à 2000 euros?
Comment on fait pour
jouer la famille?
Jouer la famille. Effectivement, moi j'ai fait jouer mon filleul et ses cousins. Voilà, parce qu'il y a 3 enfants dans mon film, de 2 ans, 4 ans et 7 ans. Donc c'était assez folklore de tourner avec des enfants, avec justement dans des conditions comme ça, pas faciles. Voilà, il y avait pas mal de contraintes. Mon premier film s'appelle Soleil, donc il fallait qu'il fasse beau. Et ça, c'était aussi un peu compliqué. Mais voilà, ça s'est très bien terminé. J'en suis très, très fière de ce premier film. Et, voilà, je ne joue pas dedans, parce que je suis toujours comédienne, bien sûr. Mais voilà, ouais.
C'est quelque chose qui vous intéresserait, de jouer dans un film que vous avez réalisé?
C'est possible, mais pas des films, des petits formats. Format plus court, oui. Oui. Là, je prépare un format web-série. Je me mettrai en scène.
Alors, justement, c'est là-dessus que je voulais venir, puisque la web-série, moi, c'est un monde qui me passionne, et notamment, en fait, le nouveau média, enfin, nouveau qui commence à plus être nouveau, mais le média Internet, en fait, simplement. On a parlé, on parle beaucoup ici au Festival de Vébron, de cinéma un peu classique, comme on l'entend, sans vouloir le dire que c'est moins bien, c'est pas la question. Mais les web-séries, c'est un tout nouveau milieu où encore beaucoup de choses sont possibles. Est-ce que c'est un monde qui vous a peut-être attiré pour ça, pour cette liberté qu'on peut avoir dedans? Qu'est-ce que ça a été, l'expérience web-série, en fait?
Alors moi, j'ai pas encore préparé. Enfin, là, je suis en thème pour la web série. Là, je suis juste en phase d'écriture. Par contre, moi, j'ai tourné dans une web série.
Oui, Gabriel, si je
voilà, c'est
pas.
Ça, Gabriel, qui est un format qui est pour Canal Play, Studio Plus. Donc, c'est effectivement des budgets moindres que pour Canal Plus ou la télévision, enfin les chaînes hertziennes. Mais qui permet quand même d'avoir. Moi, je pense, il y a du bon et du moins bon, c'est-à-dire, ça permet quand même de pouvoir avoir une nouvelle vision du cinéma ou du genre. Bah là, surtout que c'est une série de genre qui est quand même très difficile à financer à la télévision. On voit peu de films ou de séries de genre à la télévision. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est bien ces nouvelles plateformes, en fait, que ce soit Canal Play ou Studio Plus ou voilà, OCS, qui permettent vraiment de financer, alors avec un budget moindre, c'est vrai, moindre forcément, mais qui permet quand même d'avoir une nouvelle vision et d'aller plus loin et de oser plus.
Il y a beaucoup de choses à réinventer pour vous, justement, dans ce nouveau format.
Moi, je pense que ça permet une certaine liberté que n'a pas encore vraiment, je trouve, la télévision, même si elle s'ouvre de plus en plus, notamment grâce à Canal+, qui a quand même ouvert la voie en France. Mais je trouve que ça permet vraiment une vraie liberté, quoi. Parce que c'est moins surveillé, on va dire. Ça répond à moins de critères d'offres et de demandes, on va dire. Et du coup, ça permet plus de liberté.
Vous avez parlé de genre, justement, tout à l'heure. C'est quelque chose sur lequel je voulais un petit peu revenir, puisque quand on regarde un petit peu votre filmographie dans ce dont vous avez joué, et quand on va voir la démo qui est disponible sur Vimeo, auditeur, auditrice, je vous engage à taper Sonia Joubert et tomber sur la vidéo de démo sur Vimeo.
J'en ai une nouvelle, hein, mais je ne l'ai pas encore. Ouais,
ah, j'ai vu que là, j'ai
pas encore communiqué dessus. Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a un genre, en tout cas, qui vous attire, peut-être, qui est un petit peu le thriller, un petit peu le. Voire même l'horreur, parce que Gabriel, c'est un petit peu du genre dans l'horreur.
C'est de l'horreur. Ouais.
Est-ce que c'est des styles, en fait, ou des genres qui vous plaisent, ou est-ce que c'est juste moi qui me suis fait une impression?
C'est un genre que je connais toujours pas forcément très très bien. Je suis pas une aficionado du film de genre, du gore, ce genre de choses. Après, c'était plus des envies de ciné. Les réalisateurs sont venus à moi pour ça. Alors, ce que je dégageais, en tout cas, une certaine période où c'est vrai, j'en ai beaucoup fait d'un coup, des courts-métrages de genre, des films de genre. Je sais pas, mes grands yeux, bon là on les voit pas à la radio, mais un style un
pour
peu...
Pour tous les auditeurs qui n'ont pas la couleur, désolé.
Non, je sais pas, c'est plutôt... J'ai rien demandé à cette époque-là. Ils me proposaient de rentrer dans leur univers, et moi je trouvais ça sympa. Lycée Lucie, effectivement, par exemple, qui est un moyen-métrage qui a été à Gérardmer. Oui, c'est génial à pouvoir jouer. Pour lui, c'est vraiment une inspiration de Polanski en plus, donc vraiment on tire plus vers le thriller psychologique, et ça j'adore, c'est génial. Ça c'est pareil, le thriller psychologique, c'est un genre qu'on voit très peu en France aussi. Il y a beaucoup de... Voilà, en France on est encore frêlé sur certaines choses, je trouve.
Je voulais revenir du coup avec vous deux, maintenant qu'on a un petit peu détaillé vos parcours, qu'on vous connaît un petit peu mieux. Le Festival de Vibron, donc comme on a dit, c'est la première fois pour vous. Est-ce que c'est la première fois en Lozère aussi? C'est un territoire que vous connaissiez un petit peu ou pas du tout? C'est genre, tiens, c'est joli, il y a des montagnes, comment ça se passe?
Moi, je connaissais pas du tout. C'est la première fois que je viens dans cette région.
Vous faites comme Lionel Astier, vous allez sur les chemins visiter ou vous allez y aller?
On va y aller. Avec grand plaisir.
Oui, pareillement, je ne crois pas. Non, je connais l'Ardèche.
C'est pareil, Lozère. En milieu, la Lozère.
Oui, alors.
Mais je ne connais pas la Lozère, malheureusement. Donc, je suis très, très contente d'être là.
Et c'est qu'est-ce que vous attendez? Comme on l'a dit, ce qui a toujours été mis en avant au Festival de Vibron, c'est justement la réunion et la proximité, de pouvoir se retrouver avec des professionnels, avec des festivaliers aussi qui connaissent peut-être votre travail et qui sont tout contents de vous retrouver. Et je n'ai pas du tout d'exemple, pas du tout moi, par exemple. Mais qu'est-ce que vous attendez peut-être de ces quelques jours là actuellement?
En fait, moi j'ai eu la chance une fois d'être jury au Festival d'Alès, qui est pas très loin d'ici, au Festival d'Itinérance. Et moi, j'avais trouvé ça vraiment très, très passionnant, en fait, de voir autant de films comme ça avec un regard. On est très, très attentif, du coup, effectivement, parce qu'on est jury. Et voilà, de voir des films très éclectiques. Je crois que là, il y en a une quarantaine ou une cinquantaine qui sont programmés. Donc, c'est riche. Enfin, quand on aime le cinéma, les courts-métrages, c'est fabuleux, quoi.
Oui, pareillement. Enfin, moi, je suis cinéphile. J'adore les. En plus, le long métrage ou même le court métrage, je suis ravie d'être dans une salle obscure et de pouvoir regarder des films. Et voilà, c'est une première pour moi, effectivement, d'être membre d'un jury de court métrage. Mais je pense pouvoir répondre à cette tâche, j'espère, du mieux possible et avec mon œil. Voilà, de cinéphile et aussi maintenant de cinéaste. Alors, voilà.
Bah écoutez, on vous retrouvera en tout cas à la clôture. On verra justement si ça a un petit peu répondu à vos attentes et on verra aussi la fatigue. C'est toujours rigolo de faire ça. Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup à vous.
Vous pouvez d'ailleurs les rencontrer, comme je disais, c'est le truc chouette de Vébron, auditeur, auditrice, d'aller boire des coups avec ce genre de personnes, c'est quand même très très chouette. On va se retrouver du coup avec les restes des membres du jury. Lionel Astier va nous rejoindre de nouveau, Jean-Claude Langot et Frédéric Bourali. Avant, on va s'écouter le groupe qui va jouer ce soir Solo Malais, en fait, simplement, avec le morceau, et comme j'ai beaucoup trop de notes, eh bien, je tourne mes pages, voilà, tout à fait. C'est toujours pas celle-là, et c'est formidable, avec le morceau Bourriental, et on se retrouve juste après avec les restes des membres du jury. À tout de suite. Vous êtes de retour, auditeurs et auditrices, en direct du Festival international du film de Vébron pour sa 30e édition. Nous ont rejoint autour de ce plateau les trois autres membres du jury. Alors, Lionel Astier, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Frédéric Bourali. Frédéric, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, comédien dans un nombre incalculable de pièces, connu du grand public pour Scène de ménage sur M6, mais qui, pour moi, sera toujours la voix de Monsieur Satan et de Trunks du futur, de mon enfance. Voilà, ça, c'était
c'est
le petit moment fan.
C'est-à-dire que tu fais le conservatoire. Non, eh ben, rien à foutre, les gens, ils t'écoutent. Parce que t'as fait le con dans un truc.
Voilà. Alors, si vous pouviez ne pas détruire mon enfance tout de suite, éventuellement qu'on prenne un peu de temps.
Je dis tout de suite que Dragon Ball, je ne comprends rien. Je n'ai jamais rien compris.
Si vous voulez, je vous raconterai toute l'histoire après. Il n'y a aucun problème, ça sera avec plaisir.
Je n'ai jamais compris de quoi ça parlait.
Et voilà, comment, voilà, après tout, une enfance, c'est rien.
Bref, l'enfance malheureuse, ouais.
Et Jean-Claude Langot qui est avec nous. Alors, ça serait peut-être plus simple de lister ce que vous n'avez pas fait, du cirque, de la danse, du directeur artistique, directeur de casting, et j'en oublie sûrement 150, mais merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonsoir, merci. Bonsoir. Moi, je suis ravi d'être ici. Voilà.
Plaisir d'offrir, joie de recevoir, ça marche dans les deux sens. Peut-être, alors, passer c'est avec vous tous sur plein de choses. On a déjà un petit peu commencé avec vous, Lionel, tout à l'heure. Mais j'avais envie de vous demander, vous êtes président du jury cette année, en fait, simplement. Président, quand on le dit comme ça, ça peut faire un petit peu pompeux. Comment vous définiriez, vous, le rôle de président, en fait, simplement, d'un jury? C'est quoi votre rôle? Qu'est-ce que vous allez faire?
Je vais les influencer énormément. Je vais les menacer. Enfin, hein. Non, mais je sais pas. J'ai peut-être une certaine sensibilité par rapport. J'ai déjà commencé à voir les films. C'est mon privilège de président.
Oui, vous l'avez pris un peu d'avance.
Voilà. Donc voilà. Après, il y a des choses qui me paraissent. Je vais leur dire, je peux même le dire maintenant, c'est-à-dire par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'époque où nous vivons, il y a des films qui sont légers, d'autres un peu plus superficiels, qui sont très bien faits, et puis il y a des films qui sont porteurs de quelque chose, ils sont porteurs d'une, j'allais dire d'un remède des fois, d'une guérison, peut-être que si je devais diriger vers quelque chose à travers ça, c'est-à-dire voilà, quand je dis un remède, c'est-à-dire c'est important les films qui arrivent à faire des belles fictions en parlant de tolérance, en parlant de partage, en parlant de ces choses-là. Il y a des belles choses dans ce que j'ai vu déjà, des magnifiques choses. Donc voilà, peut-être que c'est insensiblement comme ça, je les pousserai vers là.
On parlait justement avec Valérie Théodore tout à l'heure de changer la vision du monde, en fait, de quelqu'un qui sort d'un court-métrage, d'un long-métrage et qui a quelque chose de changé. C'est vous, c'est un petit peu ce que vous recherchez?
Oui, tout à fait. Moi, je sais qu'en fait, tout ce que j'ai pu... Je donne un exemple comme ça, c'est marrant. J'étais passionné par les Indiens quand j'étais gamin. Alors qu'en fait, je me rends compte que les films que je voyais sur les Indiens, les Indiens étaient toujours présentés comme des sauvages. C'est récent que les Indiens soient présentés comme une civilisation. Little Big Man, tout ça, ça a commencé un peu avec ça. Mais avant, c'était des sauvages qui scalpaient les gens.
Qui se peinturent le visage.
Mais malgré ça, c'est quand même la fiction qui m'a... Ces Indiens-là, de l'époque de John Wayne, de John Ford, tout ça, qui m'ont quand même donné envie d'aller voir plus loin. Et de découvrir qui étaient les vrais sauvages, en fait, dans les films de cow-boys et d'indiens, qui étaient les vrais sauvages. Mais c'est toujours la fiction que vous les portez, pour moi.
Donc changer cette perception à travers la fiction.
Et elle allume la curiosité, surtout. Enfin, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller, on a envie d'aller plus loin. Enfin, pour moi.
Ce message, c'est aussi important que l'esthétique que l'on donne au film que l'on va réaliser, au court-métrage que l'on va réaliser ou pas. Le plus important, c'est le message, et après, on voit la forme de la réalisation, ou non, c'est un milieu qu'on doit réussir à trouver entre les deux.
Non, mais j'espère que on peut tout concilier, c'est-à-dire que ça peut être esthétique et le message peut être là.
C'est souvent le cas à l'heure actuelle sur les courts-métrages qui sortent en ce moment, où les films, on arrive à trouver...
C'est-à-dire qu'il y a des... on voit des films qui sont vraiment d'une esthétique, Après, le message, il faut aller un peu le chercher. Enfin, où on sent qu'aussi le réalisateur s'est fait plaisir, on voit son influence, on voit son... Voilà. Après, il y a ceux qui, avec cette esthétique-là, amènent un message, amènent quelque chose. Je ne sais pas si le mot message, moi, me plaît pas bien, mais ce qui m'intéresse quand je vois ça, c'est comme la danse. On parlait de danse, il y a un langage. Il y a des gens qui savent parler cinéma. C'est-à-dire, ils ont beau faire 3 minutes de film, ils ont beau faire 30 secondes, 15 secondes, il y a un souffle cinéma. Il y a un vocabulaire cinéma, il y a une manière de... Voilà, c'est passionnant. De quoi qu'ils parlent, c'est passionnant. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est tout d'un coup, les gens qui... C'est pas le tout de raconter une histoire ou de faire de belles images, mais il y a un langage cinéma. Il y a quelqu'un qui va raconter, qui déplace un verre, et ben il va faire du cinoche avec ça. Ben moi je suis très admiratif de ça et c'est ça, ouais, c'est ça quand même le cinéma. Et oui, ça peut changer sa vision du monde, bien sûr.
Est-ce que dans ce vocabulaire cinéma, puisque là on va voir principalement des courts-métrages, le court-métrage, il y a moins de temps pour peut-être faire passer quelque chose, on a peut-être moins le temps de développer, on doit tout de suite peut-être des fois aller à l'essentiel. Est-ce que c'est une vraie différence dans le vocabulaire du cinéma?
Non. Le temps n'a rien à voir avec ça pour moi. C'est-à-dire que un film de 10 minutes qui ne marche pas, c'est interminable. C'est interminable. Et il y a des films d'une heure et demie. Il y a des films d'une heure et demie qui passent en l'impression qu'ils ont passé en. C'est déjà fini. Enfin voilà. Donc c'est une histoire effectivement de langage et de propos. Et on dit de certains acteurs quand un acteur est bon, on dit il pourrait réciter le bottin. Voilà. Et ben c'est pareil pour le cinéma. C'est pas tellement il y a le propos, mais il y a surtout la manière dont il en parle. Et il y a des réalisateurs qui sont. C'est pas il y a pas d'autres mots qui sont captivants. C'est captivant. Leur langage est captivant. Ils vous racontent les choses en faisant du cinéma avec des images, avec de la lumière, avec des acteurs. Voilà.
C'est un langage qui se réinvente ou c'est, je veux dire, donc il y a des règles au cinéma, voilà, qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Mais est-ce que c'est dans des festivals comme celui-ci, est-ce que vous découvrez des manières de faire? Est-ce que il y a, bah, je vais pas dire du génie du cinéma, mais est-ce qu'il y a voilà des nouvelles choses qui apparaissent?
Oui. Mais aujourd'hui, on a les portables sur la table. Là, tout le monde fait des images. Tout le monde fait des images. Là. Tous les gens qui sont là sur cette place ont un portable dans la poche et font des images. Il y en a combien qui font du cinéma? C'est ça l'important, c'est la différence. C'est-à-dire qu'il y en a qui font du cinéma. Et avec ça, ils font du cinéma, avec des portables. Maintenant, il y a des films extraordinaires.
Il y a Gondry qui vient de sortir un film avec son portable.
Moi, je suis très admiratif de ça. Ils savent, ils savent parler cinéma.
Le média se renouvelle sans cesse. En fait, c'est juste un autre outil, mais pour faire du cinéma. Le portable, par exemple, ce genre de choses, ça se renouvelle sans cesse. En fait, il y a toujours de nouvelles techniques à découvrir, de nouvelles surprises.
Mais oui, c'était marrant, c'est parce que c'était Coppola qui, au moment de Apocalypse Now, disait quand il parlait des difficultés de son film là, c'est plus des difficultés, c'est une épopée ce film. Enfin, c'est une vie. On voit le making of. Il perd 40 kilos, il les reprend, il les repère, enfin bon, il perd ses cheveux, il perd tout. Et il disait, mais maintenant, à partir de ce film-là, maintenant le numérique arrive, vous allez voir, tout le monde va faire des images. Tout le monde va faire des images. Et il y en a certains qui font des films, mais tout le monde va faire des images. C'est vrai, tout le monde fait des images, on fait tous des images, vous avez remarqué, quoi. On fait des photos tout le temps, on fait des bouts de films tout le temps.
Alors à la radio,
et puis il y en a qui, avec les mêmes choses, font des trucs, c'est... On prend des photos, puis tu dis, tiens, il y en a un tout d'un coup qui sait les faire.
Alors, voilà. Comme c'est affreux à quel point le temps vide, c'est une horreur, j'aimerais me tourner aussi vers notamment nos deux autres invités, notamment Jean-Claude Langot. Bonsoir. Alors, moi, j'ai juste une petite question, parce que voilà, vous avez fait plein de choses, et notamment, vous êtes directeur artistique sur le dernier des sons, qui ne sera pas projeté ici, mais sur lequel il y aura une conférence, mais vous êtes aussi directeur de casting. Et mine de rien, c'est des métiers qu'on ne connaît pas vraiment, en fait, dans le cinéma, nous, lambda, ceux qui ne sont pas dans ce monde-là. Et j'avais en fait un petit peu envie de vous demander, directeur de casting, par exemple, directeur artistique, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Bon, voilà deux choses différentes.
Alors, vous avez 4 heures et...
C'est pas sur le sujet. Le premier amène le deuxième, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, lorsqu'on travaille avec des équipes qui vous connaissent depuis des années, lorsqu'ils vont constituer une nouvelle équipe, ils vous appellent. Et aussi bien pour la partie des comédiens, donc là, moi, je travaille en amont pour chercher certaines équipes d'acteurs et d'artistes, et derrière, pour constituer des équipes techniques. Je suis sur scène qui s'occupe des castings à mon niveau. Elle s'occupe de casting secondaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà un casting qui est fait sur les têtes de liste. Il va y avoir énormément de gens autour à gérer. Il faut que le réalisateur, les deux réalisateurs, là, c'est Besson et son assistant Stéphane Gluck, eux, il faut que lorsqu'au moment où ils veulent travailler, ils soient dégagés de toute une problématique derrière qui est comment tous les acteurs se déplacent au milieu d'une technique qui est lourde. On est sur des studios qui mesurent 900 mètres de long. On a 33 mètres de studio vert avec des fonds verts, avec des personnes, j'en parlerai là, ici jeudi, mais qui ont des tas de capteurs sur eux. On tourne avec des drones et des tas de choses. Il faut que des acteurs jouent au milieu de tout ça. On parlait tout à l'heure du sentiment, on parlait de situation. On n'est pas en train de faire un jeu vidéo, on est en train de faire un film où le numérique a sa place. Mais je sais que la grande idée sur ce travail-là, c'est de voir les visages, de voir les expressions. Je sais dans toutes les scènes qu'on a tournées avec les acteurs dans les deux dernières années, la règle d'or, c'était on veut voir toujours les visages. On veut toujours voir le jeu de près. Et derrière, la numérisation va permettre la féerie, etc., d'amener des tas de choses qui permettent maintenant de rêver autrement. Moi, je reviens sur une chose que disait Lionel là, c'est aussi une partie qui concerne une partie de mon métier. Alors c'est curieux, dans votre question il y a deux choses, et c'est ce qui fait ma formation. J'ai une partie vraiment d'acteur, j'étais formé comme un artiste de scène, je viens du cirque, j'ai fait la danse classique, j'ai joué sur scène, etc. Et l'autre partie sur laquelle j'ai énormément travaillé, j'ai fait de la photographie, j'étais directeur de plateau en photographie. Là je travaille avec Didier Arbogast, qui est un des plus grands directeurs de la photo, avec qui on fait des choses extraordinaires. On apprend encore à savoir ce que c'est qu'une lumière et des ombres, et même si la technique avance. Une chose intéressante, regardez les mouvements de caméra dans les années 50. Rien que pour suivre un personnage dans la rue, il y avait un mouvement de caméra incroyable parce qu'ils étaient à quatre avec des trucs incroyables, une machinerie de fou. Il y avait des pellicules, il y avait une chaleur incroyable. Le nombre d'ASA de la pellicule demandait d'avoir un minimum de lumière, on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Une des personnes qui a fait évoluer ça, c'est Lelouch, puisque au moment où on a utilisé des caméras qui permettaient de tourner avec moins de lumière, avec des zooms donc aussi, on pouvait filmer des gens très très loin. Je reviens sur la caméra qui devient de plus en plus légère, ça nous permet de faire des films aujourd'hui avec des GoPro, des choses comme ça. J'étais sur un tournage sur Taken 2 aussi avec Besson il y a 3 ans à Paris, il y avait 8 drones au-dessus de nous, des petites caméras sur des balcons, on fait des relais, on ne tourne plus aujourd'hui. Mais là, on parle de technique, on parle de moyens de tournage. Et il ne faut pas mélanger l'expression et la technique. Il y a une grande erreur si moi, je ne regarde pas un film en me disant comment c'est tourné. Bien sûr, c'est un savoir-faire, savoir mettre des lumières, des costumes, etc. Mais derrière, je préfère, moi, le réalisateur qui va se planter un peu dans la technique, mais qui se dit, moi, j'ai un truc à faire. Voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai senti. J'aimerais que ça, les gens le sentent, le voient, le comprennent. Après, chacun repart avec ce qu'il veut. Si je me plante un peu, que j'ai tapé à côté, c'est pas grave, mais qu'il se fasse pas avoir à cause de la technique.
Mais justement, dans cette technique qu'en plus vous avez vu évoluer au fur et à mesure du temps, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, en fait ça évolue perpétuellement, oui. Dans cette technique on a l'impression que c'est extrêmement compliqué, il y a plein de choses à gérer en fait simplement d'un coup. Pareil pour la direction de casting, est-ce que tout ça fait pas, j'ai pas envie de parler de forme de pression, mais quelque chose de se dire j'ai cette responsabilité là, même si elle fait partie d'un grand tout dans le film, est-ce que c'est pas quelque chose qui pèse un petit peu, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se retourner après, dire si j'avais fait comme ça, si quoi que.
Non, il y a une chose intéressante, c'est que il y a peut-être 4000 personnes sur ce genre de tournage. C'est ce qu'on appelle les gros blockbusters, c'est-à-dire tout ça. Mais en vérité, il y a un travail même chez Besson, et je vais faire un petit commentaire, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait plusieurs équipes qui en créent une grande. Moi, quand il me dit tu travailles sur telle séquence, tel jour, t'as 21 personnes avec toi, voilà autant d'artistes, de techniciens, etc. Et du coup, on travaille comme si on était avec des petites équipes de tournage. Et moi, il y a une chose pour laquelle je voudrais dire que ces genres de films m'intéressent, c'est que si ce n'était que du blockbuster avec 4000 personnes où on voit rien de ce qu'on fait, où c'est une grosse machinerie lourde, ça ne m'intéresserait pas, parce que voilà ce qui m'intéresse ici. On a encore le film à son origine. Je prends une caméra, j'ai un acteur, une personne qui marche, un peu ce qu'on disait avec le verre tout à l'heure, et là on commence déjà à créer une situation. Béjart disait, la danse c'est déjà un homme qui marche, et c'est déjà de la danse, et on est d'accord avec ce sentiment-là.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Finalement, le court-métrage, ça ne permet pas de revenir à l'essence de ce qu'est le cinéma, un scénario, des dialogues, des acteurs, pas énormément de moyens.
Et je crois que là, c'est encore un exercice qui est bon, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sortent de l'école de cinéma, qui passent par cet exercice-là. Ce que j'aime aussi dans les gens du court-métrage, de ceux que je vois à Paris, ils sont souvent en liaison avec des élèves qui eux-mêmes sont dans les conservatoires ou les écoles d'acteurs aujourd'hui. Et ça, je pense que Frédéric le sait comme moi, en général, ça crée des réseaux et des copains qui se lâchent jamais. Tout à l'heure, on s'est rencontrés pour la première fois avec certains, on a l'impression que c'est la même famille, qu'on se connaît depuis 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça. Et revenir au court-métrage, c'est une chose. Je reviens aussi sur une chose qu'on a dit tout à l'heure.
C'est pas parce qu'on fait du court-métrage qu'il faut raconter l'histoire plus vite. C'est une erreur. On n'est pas en train de faire une pub ou un clip rapide. Je peux, moi, sur un truc de 7 minutes, avoir le temps. Je prends le temps de faire quelque chose. C'est pas l'exercice de dire... Le court-métrage, ce n'est pas votre exercice, c'est de faire en 20 minutes ce que vous feriez en 1h20. Vous voyez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
C'est deux exercices différents. Et on peut avoir un film très long et qui aura un rythme très rapide. Et l'inverse. Moi, je rêve que les gens du court-métrage prennent le temps.
C'est terrible parce que j'aurais envie de parler de ça pendant des heures, c'est terrifiant. Je vais me tourner aussi vers notre troisième invité, donc Frédéric Bourali, qui est avec nous, donc pas du tout Monsieur Satan, hein, comme vous l'avez bien précisé mine de rien, mais vous n'êtes pas justement que acteur, vous êtes aussi comédien de théâtre, vous avez tourné dans un nombre de pièces absolument incalculable. Il y en a une qui est en préparation d'ailleurs, non pas
longtemps. Oui, Lionel en plus. Oui,
avec Lionel.
Ouais, je suis très content.
Il y a une question un petit peu de casting de rêve, moi, là qui me fait briller les yeux un tout petit peu, mais vous êtes aussi membre du jury, du coup, cette année. C'est la première fois, vous m'avez dit tout à l'heure, que vous arrivez à Vébron. Lozère aussi, c'est la première fois ou pas du tout ?
Oui, je crois, oui. J'ai eu la chance de jouer au théâtre beaucoup en tournée là, ces derniers temps. Et c'est peut-être une des rares régions où je le regrette d'ailleurs parce que c'est magnifique. Mais bon, c'est pas grave, je suis là, tout va bien.
Ah, mais tout va bien.
Sinon, à part ça, tout ce que disait Monsieur le Président tout à l'heure, parce que c'est
bien sûr.
Non, mais j'ai souscrit complètement à ce que disent mes camarades. Je suis entièrement d'accord avec eux. Et notamment sur le. Vous parlez beaucoup de la technique, ça a l'air de vous intéresser, mais vous savez, dans 1000 ans, quand une femme sera amoureuse d'un homme, elle sera une amoureuse d'un homme. Et vous aurez beau avoir le super briquet qui va faire la caméra, qui va vous monter à 10 000 km, elle sera amoureuse d'un homme. C'est ça la base. Après.
Ou d'un robot.
Il ne faut pas confondre. Parce que vous savez, il y a des grands écrivains qui écrivent avec de la plume, et puis il y en a qui écrivent avec des ordinateurs. Ça reste des grands écrivains. Il ne faut pas confondre le tuyau et ce qu'on met dedans. Et c'est souvent, bon, on est tous d'accord avec ça, mais bon, j'enfonce une porte ouverte à grand coup d'épaule en disant ça, mais c'est, je suis très sensible à ça, parce que souvent, des jeunes qui nous croisent pensent l'inverse. Ils sont fascinés par la technique, on peut le comprendre d'ailleurs, parce que c'est des techniques fascinantes, hein. C'est extraordinaire ce que tu racontes, là, c'est fascinant, je connais tout ça, c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas se tromper de ce qu'on veut filmer. Qu'est-ce qu'on veut dire? Souvent, quand je rencontre des jeunes, tout ça, je leur dis, tu veux dire quoi dans ton film? Qu'est-ce que tu veux raconter? C'est quoi que tu veux dire? Alors, mets la caméra en fonction, démerde-toi. C'est pas une question technique.
Alors, de nouveau, justement, si on reste sur cette idée de jeu, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Claude, le fait de montrer les visages, de bien voir les visages. Il y a d'ailleurs eu une peur un petit peu du cinéma à un moment que le numérique mange énormément. Mais dans le jeu, voilà, justement, de savoir qu'est-ce qu'on a envie de raconter, vous, c'est toujours ce que vous voulez mettre en avant quand vous jouez, peu importe ce que vous jouez. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à celui qui regarde?
De dire, j'ai pas de message, qu'est-ce que j'ai envie d'être surtout? Enfin. C'est très pompeux de dire tout ça. En parlant, j'ai l'impression d'être un peu chiant parce que c'est assez pompeux de dire tout ça. Mais c'est vrai. On en parlait tout à l'heure, mais ça, pour un acteur, c'est encore différent. Le réalisateur, il a un autre souci. C'est autre chose. C'est de rendre tout ça visible par le public. Mais nous, en tant qu'acteur, c'est d'incarner les choses. C'est d'être les choses, d'être ce qu'il y a à faire, d'être au moment de ce qu'il y a à faire. Faut être là. C'est de l'essentiel. C'est plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais l'essentiel, c'est d'être là au moment T. Pourquoi on dit moment T d'ailleurs? On devrait dire moment M.
Ça n'a aucun sens. L'instant, peut-être. Le temps.
Voilà.
Ce que nous a rejoint en plateau Jacques Malaterre. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Parrain du festival depuis 5 ans.
Exactement.
C'est pas rien, hein. 5 ans quand même, vous avez eu le temps, je pense, de voir beaucoup, beaucoup de choses passer. D'ailleurs, vous étiez sur ce plateau l'année dernière aussi. Peut-être venir avec vous, les 30 ans du festival. Vous le connaissez, comme on l'a dit, depuis 20 ans. Maintenant, on voit la 30e édition. On voit qu'il y a toujours autant de monde qui peut justement rencontrer des professionnels et vous rencontrer vous aussi. Comment vous la sentez, cette 30e édition, simplement? Et une très, très longue question pour pas grand-chose, hein, mais oui.
Oui. 30 ans, non, mais je crois que 30 ans, ça prouve la vérité de ce festival. Moi, c'est, je vais pas beaucoup dans les festivals parce que il y a peut-être trop de gens de ma profession, mais ici, les gens de ma profession sont obligés d'être vrais et ne sont pas dans le paraître, ils sont dans l'être. Je crois que c'est pour ça aussi que ce festival tient depuis 30 ans, parce que je crois que les gens qui font ce métier avec cœur ont envie de se retrouver dans des endroits où ils sont, où ils peuvent raconter des histoires de cœur, des histoires d'amour, des histoires de passion. Et non pas juste être dans une image extérieure de ce qu'ils peuvent représenter pour les médias.
Alors c'est justement aussi une question peut-être que je voulais vous poser à tous les deux. Comme vous l'avez entendu, on a beaucoup parlé de la proximité qu'il y a en fait entre les professionnels ici et les gens qui viennent voir, qui connaissent votre travail ou qui découvrent en fait votre travail. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est toujours important en fait simplement pour vous, de rencontrer des gens pas du tout de ce milieu mais qui sont là pour parler en fait avec vous? Et est-ce que c'est différent en fait simplement d'autres endroits?
Moi personnellement j'imagine même pas que ça puisse se faire autrement. J'imagine pas, dans ma vie, j'ai toujours travaillé. J'imagine pas qu'on puisse penser de choses différemment que ça. Mais c'est pas le lieu. Le lieu ici est formidable. Les gens, c'est pas tellement le lieu. On peut aussi rencontrer des gens très sincères à Cannes. Hein. C'est pas le lieu. Une fois de plus, c'est pas l'instrument qui fait la profondeur des choses. C'est les gens qu'on voit. On peut rencontrer des gens extraordinaires dans un endroit où, a priori, c'est pas possible. Et vous pouvez rencontrer, même ici, des gens qui sont vides. Hein. C'est pas le lieu. Mais disons que ce que je sens quand même, c'est qu'ici, malgré tout, on le sent tout de suite, quand même. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose d'authentique, de vrai, où c'est très apaisant, hein, où on se sent pas obligé de... Enfin, je me sens jamais obligé de faire quoi que ce soit, mais c'est vrai, t'as raison, tu en parles.
Non, je crois que t'as raison, c'est pas le lieu, mais il y a aussi les gens qui organisent le lieu.
Ben, ça doit compter.
Alors... Quand tu me dis qu'à Cannes, on peut rencontrer des gens bien, oui, mais il faut chercher.
Il faut les chercher, mais on les trouve.
Faire de l'ethno, quoi.
C'est vrai, mais on les trouve. On les trouve, hein, on les trouve.
Ouais, on les trouve, ouais.
Non, mais on est très fort en spéléologie ici. Ouais.
Non, mais on les trouve, c'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai que les gens qui organisaient ça, visiblement, c'est des gens eux-mêmes qui sont comme ça. Donc c'est toujours la base. Hein. Voilà, ça vient d'eux. Ça vient d'eux.
Peut-être Jean-Claude Longo.
Non, je rebondis. La suite de cette question, et une chose que je trouve très belle ici, c'est que n'importe qui est ici peut venir gratuitement assister, au même titre que le jury professionnel qui est là. N'importe qui peut venir voir ce travail. Moi, j'aime cette idée que tout le monde aille voir quelque chose. On a un regard, nous, qui n'est pas forcément faussé, mais on essaie d'avoir aussi un regard de spectateur. Mais c'est fascinant de pouvoir rencontrer les regards des autres, d'avoir leurs idées. J'aime beaucoup, moi, dans le festival, l'idée aussi de rencontrer un public qui vient voir les mêmes choses. De rencontrer évidemment les réalisateurs, ça c'est un rêve d'arriver ici, de parler de leur boulot, parce que sinon ça sert à rien, on est assez d'accord avec, si on peut vraiment rencontrer un maximum de gens, ce sera superbe. Et surtout, c'est pas de leur dire comment faire, moi je leur poserais plutôt la question de comment vous pouvez m'aider, parce qu'en fait, très curieusement, sans être démago, c'est aussi une façon, moi je vais beaucoup dans des festivals, on va beaucoup être jury, préparer des choses. Je me suis aperçu qu'on apprend beaucoup de la nouvelle génération. Il faut un peu d'humilité aussi, il faut arrêter de frimer parce qu'on est ici ou là, machin. Moi, je suis très surpris des bonnes idées et de la façon et du regard nouveau. Et je pense que des fois, on peut s'affranchir de certaines choses et présenter les choses de façon étonnante. Donc, je pense que je serais surpris ici par ces choses-là.
Non, puis je crois qu'il y a une chose ici, c'est que les barrières sont faites pour empêcher les voitures de venir là où les gens boivent un verre. Alors qu'à Cannes, les barrières sont là pour empêcher les gens de venir voir les gens qui les font rêver.
Frédéric Bourrelli, vous avez une histoire avec le court-métrage ?
Oui, j'ai participé à plusieurs festivals. J'ai même été président d'un jury à Draguignan. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce qu'on en parlait justement tout à l'heure. J'ai adoré ça parce que c'est la possibilité de rencontrer les réalisateurs. Et je me souviens, j'avais demandé, moi, parce que ce n'était pas organisé comme ça. J'avais même, enfin, le mot exigé était un peu fort, mais j'avais mis comme postulat que je voulais bien venir à condition que les réalisateurs, on puisse les rencontrer. Parce que souvent, malheureusement, les réalisateurs, c'est ça qui est fou, quoi, les festivals. C'est quand même dingue. Les mecs, pour faire un court-métrage, l'effort qu'il faut faire, c'est des fois plus long à fournir comme énergie qu'un long-métrage, parfois. C'est fait avec très peu de moyens. Et je trouve que la moindre des politesses, c'est de, surtout sur un festival, c'est de rencontrer les gens et de leur parler. Et notamment, ceux qui ont un quatrième prix, c'est les trois prix en général, je schématise, mais ceux qui l'ont pas eu, c'est vachement intéressant de parler avec eux, de savoir pourquoi ça s'est pas fait, pourquoi quelque chose est passé à côté d'un goût ou de quelque chose. Ça, c'est intéressant d'en parler avec eux, d'échanger. Et voilà, et pour moi, c'est fondamental. Si ici, dans un endroit aussi génial, dont tu parles avec des gens tellement, je veux dire, normaux, j'allais dire, on rencontre pas les réalisateurs, alors là, ça se tire une balle.
Le problème, souvent, de rencontrer les réalisateurs...
Ils sont pas toujours disponibles.
Non, c'est un problème de budget.
Ah, oui, bien sûr.
C'est que quand on voit la sélection de cette année, où ça vient les films viennent de Russie, d'Amérique du Sud, d'Espagne, festival, comme vous le disiez tout à l'heure, ne fait pas payer ses entrées, ne croule pas sous les subventions, et malheureusement, ne peut pas inviter les gens. Et souvent, les réalisateurs ce sont des gens qui sont pas, qui ont pas beaucoup d'argent, ils ont mis tout l'argent dans leur film.
C'est vrai.
Et ils ont plus d'argent pour aller le défendre.
C'est vrai, mais quand c'est possible, c'est
génial. Ah, c'est génial, normalement, c'est, bah ouais. C'est le but,
ouais,
du jeu, quoi.
Ouais, bien sûr.
Il va falloir que vous alliez en Russie prochainement pour rencontrer le réalisateur qui a fini quatrième.
Mais si, il faut le faire, bien sûr. C'est une question de planning, hein.
Ça. Peut-être la dernière chose que je voulais vous demander avant que ça coupe, hein, puisque la technologie nous y oblige là tout de suite, ouais. Vous allez voir, j'ai presque envie de dire manger 40 films, ouais, là, super. Dans les prochains jours, certains dès 10h du matin, quand on est prêt, quand on, ouais, est membre d'un jury en fait, comme ça, qu'est-ce que ça fait de voir autant de films d'un coup, de recevoir autant de choses différentes d'un coup en fait, les unes après les autres?
Bah, j'en sais rien, je vais vous le dire après, à la fin. Bah,
on en reparlera vendredi.
Oui, samedi. J'en sais rien, mais c'est déjà très enthousiasmant d'imaginer ça, c'est formidable. Non, c'est de découvrir plein de gens différents, c'est formidable, bien sûr. Bien sûr.
Bah, écoutez, on en reparlera samedi, alors avec grand plaisir, puisqu'on se retrouvera à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à Lionel Astier qui a dû partir maintenant. Et puis merci à tous les invités d'avoir bien voulu participer à ce plateau. Merci beaucoup Ludo et Julia de m'avoir accompagné à l'animation.
Merci à toi.
Merci à Christophe d'avoir réalisé cette émission, bien évidemment. Sur ce, mon auditeur et auditrice, je vous donne rendez-vous à la même heure samedi pour qu'on parle justement de la fin du festival. On verra tous dans quel état on est à ce moment-là. Voilà, il y a des mimiques, vous rendez pas compte, auditeurs, auditrices, c'est dommage que vous n'avez pas l'image. Sur ce, je vous souhaite un très bon festival, en tout cas à tous. Merci. Et puis je vous dis à samedi en forme, merci. Le respect, la merci puissance. Samedi.
En pleine forme.
Merci beaucoup, au revoir à tous, ciao, ciao.
Ciao.
La 30e édition du Festival international du film de Vébron.
Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran.
Sur les ondes de Radio Bartas et de 48 FM.